accueillir le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales, Jacques Legrand, spécialiste de la Mongolie, qui va donc aujourd'hui nous parler de la Mongolie, car l'échange a bien eu lieu entre l'intervention sur les littératures de l'Afrique francophone qui aura donc lieu le 8 décembre et la Mongolie, puisque M. Legrand n'était pas disponible le 8 décembre. Voilà. Donc nous commençons tout de suite. Alors la règle du jeu, c'est vous avez à peu près une heure et demie, et ensuite à la fin de l'heure et demie, on garde selon la façon dont vous aurez été bavard entre un quart d'heure et 20 minutes pour vous poser des questions. Voilà, merci beaucoup.
Bien, merci. Donc excusez le chassé-croisé que nous avons été obligés d'effectuer, mais le 8 décembre, je serai à Varsovie pour une réunion qui est une commémoration du comité des études orientales à l'Académie des sciences de Pologne. Donc je n'avais malheureusement pas la possibilité, comme c'est des choses qui se préparent mais qui s'annoncent quelquefois un peu tard, donc j'ai été un peu pris de court et je vous prie de m'en excuser. Au demeurant, vous aurez en décembre une séance très intéressante à laquelle je m'empresse de vous convier, bien entendu. Donc quand on parle de la Mongolie, j'ai plusieurs types de réactions. Peut-être une donnée autobiographique, si vous voulez. J'ai toujours, quand des étudiants arrivent, et, monsieur, on veut faire du mongol. Je dis, bon, ça vous a pris comment? Parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui travaillent sur ce domaine et pour lesquels ça a été un choix initial, académique, structuré, réfléchi. Il y a une dimension, je dirais, de tomber dedans, passez-moi l'expression, qui a son importance. En l'occurrence, moi j'appelle ça s'asseoir entre deux chaises. J'étais russisant, sinologue débutant, et la révolution culturelle m'a empêché d'aller faire des études à Pékin et m'a expédié comme fonctionnaire contractuel à notre ambassade à Oulan-Bator, puisque la France avait eu le bon goût de reconnaître la Mongolie dans les mois qui précédaient cet épisode. Et une fois que j'ai été assis entre mes deux chaises, russe et chinoise, eh bien je suis resté sur mon tabouret mongol. Et j'y suis encore, et je pense y être encore pour le petit peu de temps qui me reste à parcourir. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est... il y a sans doute autant de domaines que celui-ci qui sont les producteurs ou les véhicules ou les occasions, je dirais, de malentendus, d'erreurs d'optique, très souvent ce qu'on appelle l'exotisme. On dit, ah, la Mongolie, oh là là, oh que c'est exotique, oh que c'est bon, au point qu'on pourrait presque dire la Mongolie face cachée de la terre. Ben rassurons-nous, et j'espère que cette conférence va nous aider, mais l'exotisme n'est sans doute en tout cas pas là où on croit le voir, parce que bien entendu, Gengis Khan, les conquêtes mongoles du XIIIe siècle, les villes rasées, les populations massacrées, tout ça est bien tout à fait réel, mais je dirais que c'est devenu tellement peu exotique de notre temps que il faudrait, je dirais, reconquérir l'image et aller voir, et c'est ce que je vais essayer un petit peu de faire ce matin. Je dirais, mais qu'y a-t-il derrière les images bruyantes, le bruit et la fureur, comme disait Shakespeare, à propos de ces grandes conquêtes, de ces l'étendue, vous savez, cette image, le plus grand empire que la Terre ait porté, qui allait de Java à l'Adriatique, etc., etc. Vous en avez sans doute vu, évidemment, passer. Et puis, les nomades. Ah oui, les Mongols sont nomades. Et qu'est-ce que c'est que des nomades? Ben, c'est des gens presque comme vous et moi, sauf que par définition, il leur manquerait toujours quelque chose. Il leur manquerait une maison, il leur manquerait un territoire bien clairement défini, il leur manquerait, enfin bref, on les définit par ce qui leur manquerait. Ça, c'est, je dirais, peut-être là qu'est l'exotisme. C'est-à-dire que cette image, elle a des pères, hein, en particulier, il y a un passage célèbre de l'historien chinois Sima Qian, qui, en même temps d'ailleurs, qu'il reconnaît les degrés de parenté entre les Chinois du Nord et les Xiongnu, fait cette description, parle ce qui manque. Et il faut ajouter que parmi les gens qui ont étudié les nomades, Le pastoralisme nomade, et en particulier le pastoralisme nomade de cette région du nord-nord-est de l'Asie, cette vision des choses est encore très loin d'avoir été abandonnée ou révisée de façon suffisamment forte. Donc de mon point de vue, et ça peut être une déception, je dirais, l'exotisme en l'occurrence ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de trouver, alors bien sûr, sous des formes multiples, variées, mais précisément, nous savons très bien aujourd'hui proclamer la nécessité et la vitalité de la diversité, et en même temps, nous continuons à avoir une affirmation extrêmement monolithique de l'universalité humaine. L'universalité humaine, ça serait ce que nous partageons. Et puis ceux qui sont un peu à l'extérieur, ben, ils seraient pas tout à fait aussi universaux que les autres. Et donc, toute cette, je dirais, cette façon de voir, je pense, appelle, à travers la connaissance, à travers le travail, à travers l'étude, toute une série de correctifs, toute une série de réappropriations, pour nous apercevoir qu'en définitive, les choses sont très loin d'être aussi étranges et aussi lointaines qu'elles peuvent nous paraître. Alors d'abord, la Mongolie, est-ce que c'est loin d'ici ? Non. La preuve, c'est beaucoup plus près que Pékin. C'est quelques milliers de kilomètres, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? En latitude, si nous pensons qu'à l'État mongol existant actuellement, il occupe une latitude très exactement équivalente à celle de la France. C'est-à-dire qu'au nord, il dépasse de quelques centaines de, à peine quelques centaines de kilomètres, et au sud, il s'arrête, je dirais, un tout petit peu au sud de nos Pyrénées, mais on est absolument, je dirais, dans le paysage, je dirais, qui devrait nous être étrangement familier, malgré évidemment un certain nombre d'apparences. Donc ce que je vais vous proposer, c'est peut-être quelques pistes, quelques trajets, la nature, les hommes, la culture et l'histoire. Vous allez me dire, tout ça est bien banal. Ben oui, c'est bien banal, parce que les hommes de cette région du monde vivent eux aussi dans les mêmes confrontations, sous des formes qui sont les leurs, dans cette donc diversité qui nous enrichit tous, qui vont nous permettre de cerner ce qu'est le titre de la conférence, la Mongolie. Alors, rien que sur le terme, il y a quelques observations rapides à avancer. Premièrement, nous ne devrions pas employer le singulier, mais au minimum le pluriel. Non pas la Mongolie, mais les Mongolies. Et avant de répondre au pourquoi de cette mise au point, je vais dire, parce que de toute façon, la notion même de Mongolie n'est pas une notion mongole. C'est une vision externe et, il faut ajouter, c'est une vision récente. Si par Mongolie nous voulons entendre la définition d'un territoire délimité par des frontières, habité par une population présentant un certain degré de cohérence ethnique, linguistique, etc., eh bien il faut attendre le début du XXe siècle pour que les éléments de cette définition soient pertinents. Et ajoutons tout de suite clairement, c'est le rôle des puissances ayant entouré et pour une part absorbé l'ère de peuplement et l'ère de culture mongole qui sont à l'origine de cette délimitation et de cette définition. Donc c'est une première remarque. On se dit, mais enfin, merde. Et alors, du temps de Gengis Khan ? Eh bien, du temps de Gengis Khan, donc au XIIIe siècle, par exemple, mais ça commence un peu avant, il y a des Mongols. Il y a l'empire des Mongols. Mais cet empire des Mongols n'est pas, et n'est, je dirais, à bien des aspects, à aucun degré comparable à ce qu'on entend, justement, par ce singulier, souvent féminin, qu'est le nom d'un pays, et qui, en l'occurrence, serait, bon, le foyer national des Mongols. Les choses sont, je dirais, un peu d'une autre nature, et c'est une image, je crois, qui mérite d'être fouillée, d'être visitée. Donc très grossièrement, aujourd'hui, un espace des peuplements mongols, dont le centre est le pays aujourd'hui connu comme la Mongolie, qui jusqu'en 1991-92 s'est appelée la République populaire de Mongolie depuis 1924 et qui auparavant avait traversé une phase très brève de conquête de son indépendance, donc de 1912 à 1921-1924, pendant laquelle s'est précisément structurée la naissance d'un pays mongol. Donc on y reviendra peut-être si nous avons le temps. Ce noyau, ce foyer, alors excusez-moi de ne pas avoir apporté d'iconographie, mais j'ai été un peu pris par le temps. J'avais prévu de vous faire un beau diaporama et puis il faudra qu'on remette ça quand nous serons à Tolbiac, n'est-ce pas? Ou là, d'abord, je préfère vous informer que l'apprentissage du mongol sera évidemment obligatoire pour tous les personnels de la Bulac. Ça sera un élément des concours de recrutement et tout cela, je dirais, ne devrait d'ailleurs pas soulever la moindre hésitation, ni la moindre réticence de votre part, je n'en doute pas. Non, rassurez-vous. Cet espace central, donc, qui présente un peu l'aspect d'un losange étiré d'ouest en est, hein, donc dont la plus petite dimension est la dimension nord-sud, et dont la plus grande étendue est autour du centième méridien, hein, de longitude est. Donc un territoire, ce noyau central actuellement constitué d'un État, représente un territoire d'environ 1,5 million de kilomètres carrés, donc trois fois la France, pour une population qui vient tout juste de dépasser 3 millions d'habitants. Donc vous mettez la ville de Paris sur trois fois le territoire français et vous avez, je dirais, une image, mais une image fausse. Parce qu'on s'est souvent servi, mais on va y revenir tout à l'heure, d'image. Donc c'est un pays avec une densité de population extrêmement faible, etc. Oui, sauf qu'il peut arriver des situations dans lesquelles un habitant pour 10 km carrés, c'est ce qu'on appelle du surpeuplement. Donc on verra qu'il y aura des appropriations d'échelle aussi très particulières à faire. De part et d'autre de cet espace central, entre guillemets, au nord comme au sud, et dans les deux cas, je dirais de façon relativement disséminée, relativement dispersée, une aire de peuplement mongol qui s'étend sur la Sibérie du Sud, d'une part, et sur le nord et le nord-ouest de la Chine jusqu'à la province du Qinghai pour cette partie chinoise, de part et d'autre du lac Baïkal pour la partie russe, donc avec des noms qui sans doute vous diront quelque chose quand on vous parlera des Bouriates. Vous aurez entendu parler de gens qui sont fondamentalement un élément, une zone de peuplement mongol, comportant des interpénétrations relativement marquées avec des populations sibériennes, paléo-sibériennes, turques, par exemple des échanges et des contacts entre les Bouriates et les Yakoutes, qui habitent encore plus au nord, et qui entretiennent les uns avec les autres des relations tout à fait complexes et intéressantes. Même chose, les Bouriates et les populations de la région de Touva, donc un peu plus à l'ouest, hein, et au contact immédiat de la Mongolie, tout cela, je dirais, fait un ensemble assez complexe. Cet ensemble, donc, au sud, se présente comme une sorte de mosaïque qui s'interpénètre de façon plus ou moins marquée avec des populations chinoises, bien entendu, mais également dans la partie ouest-sud-ouest avec des éléments de peuplement tibétain. De même qu'on va trouver des éléments de peuplement mongol dispersés jusque profondément dans l'espace tibétain. Si nous nous étendons encore plus loin à l'ouest, nous n'en avons pas fini avec le peuplement mongol, puisque nous allons arriver jusqu'à la Volga et à l'espace qui est compris entre la Volga et le Don, où vous allez rencontrer une population qu'on appelle les Kalmouks. Hein ? Les Kalmouks sont des Mongols. Et là, à la différence des Bouriates, qui je dirais, se sont assez fortement métissés avec des éléments turcs ou paléo-sibériens, les Kalmouks sont, si j'ose dire, des Mongols comme vous et moi, hein, à tel point d'ailleurs que, séparés du noyau central depuis la première moitié, au plus tard la première moitié du XVIIe siècle, ils ont non seulement gardé leur langue, mais ils ont gardé une intercompréhension assez poussée avec les Mongols de la partie orientale pour qu'en une vingtaine de minutes de mise en accord des codes, la conversation devienne tout à fait possible. Et c'est toujours un spectacle, je dirais, assez réjouissant que de voir cette capacité à la connaissance mutuelle, à la compréhension mutuelle, qui a d'ailleurs eu des étapes historiques tout à fait passionnantes. Donc on a, une fois qu'on a situé cet espace, on pourrait même aller encore au-delà. Est considérée comme une des pointes extrêmes du peuplement mongol, la ville de Joinville-le-Pont. Parce que dans les chaos de la révolution russe, un certain nombre de ces kalmouks dont nous parlions tout de suite ont choisi, si on peut appeler ça choisir, l'exil, et se sont retrouvés par un certain nombre de foyers, de noyaux, donc certains en Turquie, d'autres en Tchécoslovaquie à l'époque, et puis certains venus jusqu'en France, en particulier à Joinville-le-Pont. Pourquoi je parle de Joinville-le-Pont ? Parce qu'à l'époque, vous aviez à Joinville-le-Pont les célèbres studios de cinéma, les studios de Joinville. Et vous avez des films français, en particulier Belle de jour de Buñuel, dans lequel vous entendez du mongol, parce que Catherine Deneuve reçoit un gros client asiat, qui est un kalmouk et qui lui demande en kalmouk, c'est-à-dire en mongol, ça coûte combien ? Donc vous voyez, en fait, tout cela vous est beaucoup plus familier que vous ne le pensez. Alors, y a-t-il des mots mongols en français ? Ben, y en a un. C'est le mot horde. Le mot horde, qui est le mongol horde, que vous retrouvez aussi, puisque c'est le nom de la langue ourdou, c'est-à-dire la langue des camps. Et horde veut dire le campement, et à proprement parler, plus spécifiquement, le campement d'un chef. Aujourd'hui, c'est un mot qui s'est, si j'ose dire, sédentarisé sous une forme au départ adjectivale, ordan, qui veut dire le palais. Donc tout ça, je dirais, nous rend encore une fois les choses encore moins exotiques, puisque je ne vous oblige pas à employer le mot horde tous les jours dans la conversation, mais c'est malgré tout un mot qui dit quelque chose à tout le monde, et on n'a pas l'impression nécessairement d'être en train de parler mongol quand on se préoccupe de cette question. Alors, cette dispersion, cette diffusion est un élément en soi intéressant, mais je dirais ne nous donne pas l'essentiel. Il faudrait faire bien plus qu'une conférence de 2 heures pour en venir à bout. Un deuxième élément fondamental qui va nous permettre de situer cet ensemble et d'en comprendre un petit peu aussi bien d'ailleurs les fragmentations que les continuités, c'est ce mot, lui aussi, qui est passé en français, qui est venu en français plutôt à partir du russe, mais qui est un mot fréquent et présent dans un très grand nombre de langues, aussi bien d'ailleurs indo-européennes que non-indo-européennes de la région eurasiatique continentale, c'est le mot de steppe. Alors, étymologiquement, la steppe ou stipa, ou il y a toute une série de définitions, on s'aperçoit, en cherchant dans les différentes langues, que ça définit toujours autre chose que ce que nous avons pris l'habitude, nous, d'y voir. C'est-à-dire, pour nous, c'est un espace herbeux, relativement continu, mais présentant des ruptures, etc. Donc, c'est bien le sens que ça a pris aujourd'hui. C'est plus un type de végétation, d'ailleurs, qu'un type de relief. Historiquement, c'est un élément, je dirais, très précis dans la toponymie. C'est la définition d'une légère incurvation du terrain, d'une surélévation du terrain, accompagnée d'un phénomène de déboisement. Donc, c'est des sortes de collines basses non boisées. Et c'est, je dirais, le reste de l'usage qui a alimenté des définitions plus ambitieuses et qui nous amène à l'image d'un très vaste espace largement herbeux et dont surtout l'intérêt pour nous est qu'il couvre une parenthèse territoriale très étroite en termes de latitude. Grosso modo, ça va du 40e au 50e degré de latitude nord, avec évidemment des irrégularités, mais par contre, ça couvre une extension en longitude qui va pratiquement de la Corée jusqu'à la mer Noire, et on peut le dire, au-delà de la mer Noire, jusqu'aux plaines d'Europe orientale, hein, la Pushta hongroise, est, on peut le dire, une extension de la steppe. Donc tout cela crée une communauté de ressources, une communauté de contraintes, une communauté de potentialités qui, bien entendu, a joué un rôle important et dans l'assez long terme pour l'ensemble des populations et l'ensemble des cultures concernées. Sur l'espace proprement mongol, un troisième élément joue un rôle non négligeable, c'est ce que, de façon simple, on appellera le relief. Deux éléments. Premièrement, une surélévation générale assez marquée, c'est-à-dire que si je prends la Mongolie proprement dite, son altitude moyenne est de 1580 mètres. Si nous examinons les structures du relief qui entrent dans la composition de cette situation, nous sommes très directement dans un... Alors je ne vais pas vous faire un cours de géologie, rassurez-vous, mais on est sur d'anciens fonds marins qui ont été soulevés, puis plissés, ou éplissés, par suite, très directement, du soulèvement et des plissements sub-himalayens, hein, donc le mouvement des plaques, hein, qui soulève l'Himalaya, et au nord de l'Himalaya, ben, passez-moi l'expression, ça dégouline un petit peu. Donc on va se retrouver avec des chaînes de montagnes très clairement et très massivement orientées sous forme de grands plis est-ouest. Je dirais la configuration générale même de l'Himalaya nous place dans cette logique, et on voit ce phénomène se reproduire. Quel rapport ça entretient avec l'image précédente, l'image de la zone de steppe? Eh bien, un rapport tout à fait direct. Il n'y a pas de vrais obstacles, autres que les cours d'eau, qui s'opposent au passage des populations, au passage des migrations, à la diffusion des cultures, des techniques, depuis, disons pour simplifier, le bassin méditerranéen jusqu'à l'Asie orientale. Il y a bien sûr des ruptures, mais aucune de ces ruptures n'est comparable à ce que sont les grandes barrières, mais qui, elles, sont orientées est-ouest, que sont l'Himalaya lui-même, le Pamir, les Tian Shan, etc., qui canalisent éventuellement les pénétrations, mais ne les ont jamais, en réalité, empêchées. Comme par ailleurs, à l'époque moderne, si j'ose dire, à l'époque de l'Homo sapiens sapiens, on traverse là aussi les périodes de glaciation. Paradoxalement, ces périodes de glaciation ont été plutôt des accélérateurs de la mobilité du peuplement humain que des obstacles. Premièrement, en favorisant la recherche de ressources nouvelles, et deuxièmement, en levant, au moins temporairement, les obstacles que les cours d'eau, les marécages pouvaient opposer à la diffusion du peuplement. Et on voit cette image, je dirais, d'un peuplement sur lequel on va revenir, constitué de ces grands mouvements avec des arrêts, la formation d'isola, l'identification et l'individualisation de cultures, et puis ces cultures à la fois prennent contact les unes avec les autres, reprennent des mouvements de diffusion et de circulation, et tout cela crée un paysage dont la complexité ne doit ni nous étonner, je dirais, ni nous laisser indifférents, parce que nous allons voir une région, y compris quand nous allons employer des singuliers, dire le Mongol est ceci ou cela, ou la Mongolie est ceci ou cela, elle est très en amont constituée de ces multiples facteurs qui ont contribué à la présence du peuplement humain, au développement des activités, etc. Alors, un élément, bien entendu, à cerner avec beaucoup d'attention, le climat. Là encore, je dirais, l'exotisme est de retour. Quand on entend parler de la Mongolie, le premier paramètre auquel on pense, si on a, je dirais, quelques lectures, c'est les froids épouvantables. Pour faire une très mauvaise plaisanterie, mais qui nous fait encore rire, nous, dans nos secteurs de, 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 de périphérie de la grande culture, n'est-ce pas ? En Mongolie, il fait un froid de Sibérie, dites-vous ? Non, non, au moins de 7 ou 8 berries. Hein ? C'est-à-dire que, bon, en fait, ce n'est pas vrai. Hein ? Il faut d'abord relativiser. Les températures relevées en Mongolie, premièrement, oui, effectivement, présentent un certain caractère, je dirais, spectaculaire. Moins 40 l'hiver, ça peut arriver. C'est pas tous les hivers, c'est pas partout. Sur le territoire de la Mongolie, ça s'échelonne, je dirais, de température moyenne de janvier, de l'ordre de moins 30, quelquefois moins 35, dans la partie nord-ouest, jusqu'à des moins 15 dans la partie méridionale. Les températures estivales pourraient être très élevées si nous n'étions pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en altitude. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à 1600 mètres d'altitude, on dépasse rarement 45 degrés. Alors, vous voyez, moins 45 plus 45, bon, ça fait des totaux intéressants. En cette période de réchauffement climatique, une chose amusante, si j'ose dire, premièrement, les températures moyennes s'élèvent plus rapidement dans cette région du monde que dans la moyenne planétaire. C'est-à-dire que là où on était à 1,6 degré en 100 ans d'élévation moyenne planétaire, les températures relevées en Mongolie depuis 1924, date de création du système météorologique national, montrent une progression de l'ordre de 3 degrés. Donc pratiquement le double. Ça n'empêche absolument pas, et ça va nous emmener vers une des clés, que c'est au cours des 10 dernières années qu'on a relevé les températures, les minima, de très loin, les plus bas. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, le minimum absolu avait été relevé à Oulan-Bator même, la capitale mongole, avec un petit moins 49 en 1954, vous voyez, l'hiver de l'abbé Pierre. Ça a aussi frappé la Mongolie et on pensait devoir en rester là pendant un moment. Oulan-Bator n'étant pas globalement la région la plus froide. Là aussi, petite image. La région la plus froide, c'est vraiment clairement le nord-ouest. Eh bien, dans les années 1999 et 2000, les températures dans le nord-ouest de la Mongolie ont très nettement et très largement battu le record d'Oulan-Bator, puisqu'on est descendu à moins 53 ou moins 54 degrés. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est si terrible que ça ? Non. Alors je pourrais vous raconter des histoires de pique-nique. Le seul problème du pique-nique par moins 35, c'est qu'il faut boire vite son vin blanc. Parce que les aiguilles de glace, je vous le jure, se forment très très vite sur le verre. Donc il ne faut pas traîner. Mais en dehors de ça, ces températures sont observées au moment de l'année où il n'y a pas de vent, où vous avez du soleil. Et il suffit de trouver un petit coin de rocher bien en face de l'ensoleillement pour s'apercevoir que, ben mon Dieu, c'est tout à fait supportable. Ou vous sortez le matin de l'ambassade pour aller chercher le courrier à la poste qui est à 1 kilomètre de distance, puis vous n'avez pas mis de manteau parce que ben, il y a du soleil ce matin-là, et il fait moins 10, moins 15, moins 20, et vous allez tranquillement chercher votre courrier. Donc, ça n'est pas un vrai problème. Et ça n'est pas là qu'est le fond de la question. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler, compte tenu des distances à la mer, un climat ultra-continental tempéré. Alors, tempéré en particulier par la position en latitude. Encore une fois, on est en moyenne à la latitude de Bordeaux. Donc ça n'a rien d'extraordinairement menaçant, je dirais. Les niveaux absolus, on vient d'en dire un mot. Mais finalement, ça n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce que nous montre à la fois l'histoire climatique et l'observation. C'est-à-dire le fait que, comme dans tout climat digne de ce nom, on a des paramètres qui sont des paramètres de pression, de température, d'hygrométrie, de vent, Et on a pris l'habitude, et je dirais, et dans le cas de la Mongolie, la plus mauvaise habitude qu'on ait prise, c'est qu'on a fait la même chose qu'ailleurs, on établit ce qu'est le régime climatique. Donc on établit des moyennes, on trace des courbes, et on dit, avec ça, formidable, donc il fait froid et sec l'hiver, il fait chaud et plus humide en été. 80% des précipitations tombent en été et tombent donc sous forme de pluie. Bon. Cette image est intéressante, en tout cas en ce qu'elle est fausse. Chacun des éléments qu'on fait rentrer dans le tableau est juste, c'est l'ensemble qui est brouillé. Le problème est que la courbe des températures et la courbe de l'humidité ne coïncident pas. Et elle ne coïncide pas depuis au moins 8000 ans. C'est-à-dire que les plus anciennes traces qui nous permettent de reconstituer l'histoire climatique, l'étude des pollens, etc., nous montrent que ce divorce entre les températures et l'humidité a une histoire longue et a une actualité immédiate constante. Il en va de même, et c'est dans une certaine mesure corrélé, mais très imparfaitement corrélé, des pressions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben des choses auxquelles vous pouvez vous attendre, c'est-à-dire de l'air chaud qui se retrouve plus haut que de l'air froid, des pressions qui, au lieu d'être la mesure progressive et normale du poids de la colonne d'air qui pèse sur un décimètre carré du sol, présente un aspect de millefeuille assez acrobatique et assez fantasmatique. Là où vous attendez à voir de la pluie l'été, vous pouvez avoir de la neige, etc., etc. Tout ce qui va jouer donc est la notion clé, la notion centrale, c'est l'irrégularité et les irrégularités. On dit aussi joli que soit le régime global qu'on essaie de tracer, on passe à côté de l'essentiel. Et cet essentiel, il est dans la nécessité pour l'homme de transformer un immédiat totalement imprévisible en termes de ressources en un mode de vie durable. Et il y a là un défi qui va nous montrer à quel point l'image de ces pauvres gens à qui il manque tant s'avère être une image totalement trompeuse. Donc la complexité pour se mesure à toutes les zones. C'est l'irrégularité au premier degré, dans la journée. Il peut faire moins 10 le matin, moins 15 à 10 heures du matin, et moins 5 à 3 heures de l'après-midi. Donc des chutes et des sauts et des absolument immédiats, brutaux. Des alternances diurnes, nocturnes, qui peuvent être elles aussi extrêmement marquées, des cycles qui n'en sont pas, et surtout si vous... J'aurais dû avoir... Mais j'ai un tableau. Vous préférez le bleu pour l'humidité et le vert pour les températures ? Non, les températures, c'est rouge. Donc si nous avons une courbe annuelle des températures qui ressemble très grossièrement à ça, mais ce que je viens de dire vous montre que ça ressemble davantage à ça, va se trouver superposée, mais non corrélée, à une courbe de l'humidité. Donc un hiver très sec, une montée qui peut être très brutale des précipitations estivales qui peuvent être extrêmement violentes, donc y compris, je dirais, n'apporte qu'un bénéfice relativement modéré à l'irrigation de la nature, puisque vous avez de très importants phénomènes de ravinement. Donc c'est un pays aride dans lequel, comme dans tous les pays arides, vous avez des inondations, y compris parce que une partie de la végétation n'est pas là pour tempérer, modérer, et par ailleurs, des phénomènes secondaires, mais l'érosion en région aride n'a pas tendance à progressivement adoucir les reliefs, mais à faire reculer des façades qui, en règle générale, conservent leur caractère abrupt, donc éboulement, glissement de terrain, stérilisation de parties importantes du sol par le fait que c'est des parties de terre non végétales qui en recouvrent certaines, etc., etc. Mais là, surtout, pour boucler sur cette question du climat, ce qui va compter, c'est que l'image que je viens de vous donner, c'est une des images possibles à un moment donné, pendant une année donnée. Mais rien ne va nous empêcher de constater que cette idée que ce qu'on a ici, l'humidité arrive après la montée des températures, peut parfaitement être totalement inversée, et voire inversée au cours de la même saison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Traduisons ça de façon toute bête. Si il se met à faire chaud avant que l'humidité arrive, comment ça s'appelle ? Une sécheresse. Si, exactement au même endroit, au contraire, l'humidité arrive alors que les températures sont encore négatives. Premièrement, il en arrive moins, ce qui va aussi jouer sur le bilan hydrique général, mais elle arrive à ce moment-là, non pas sous forme de précipitations immédiatement bénéfiques, mais sous forme de tempêtes de neige. Et le problème des tempêtes de neige dans une zone de grande aridité et avec encore à ce moment-là des températures extrêmement basses, c'est le phénomène de la sublimation. C'est-à-dire que la neige qui est de l'eau, au lieu d'irriguer le sol, les nappes phréatiques, etc., va repartir immédiatement, ou presque immédiatement, à l'état de vapeur d'eau, et va être entraînée, je dirais, plus loin, et va donc ne rien apporter à ce qui va être pour nous, dans l'immédiat, l'intérêt de ce qu'on va appeler un pâturage. Cette eau, elle vient de quelque part, et là encore les choses se compliquent. Nous sommes en extrémité du cycle de la mousson. Ce qui fait que l'humidité qui pourrait arriver du sud de l'Asie ne passe pas les nombreuses barrières montagneuses dont nous parlions tout à l'heure, et évidemment au premier degré l'Himalaya. Donc l'humidité qui arrive est de l'humidité qui a dû passer par le bassin de l'océan Pacifique, donc dans la grande rotation, mais qui du même coup arrive sur le nord de l'Asie à partir en rebondissant sur l'anticyclone canadien et en arrivant au-dessus du paysage qui nous intéresse plus directement, en ayant traversé une bonne partie de la Sibérie orientale, des zones montagneuses et boisées. Pourquoi sont-elles boisées ? Parce qu'elles reçoivent l'humidité qui du même coup n'arrive pas jusque dans le paysage de la steppe. Et il y a encore pire, c'est que si nous mesurons les vents, nous nous apercevons, parce que vous avez d'un côté la Sibérie et de l'autre côté le bassin du Pacifique, que 80% du déplacement d'air à 3000 mètres d'altitude se fait du nord-ouest vers le sud-est. Or, ce que je viens de vous dire, c'est que l'humidité arrive du nord-est vers le sud-ouest. Donc vous imaginez la difficulté greffée sur l'ensemble des irrégularités dont je venais de vous parler pour comprendre comment les choses, je dirais, ont pu se goupiller. Alors les hommes dans tout ça. Alors on ne va pas remonter, si, pourquoi pas, on a encore un peu de temps, aux origines. Bien entendu, l'homme, il est arrivé très tôt dans la région. On est à l'heure actuelle en train de dater d'environ 1 million d'années les premières traces d'anthropiens sur les territoires actuels qui rentrent sur l'espace mongol et circum-mongol. Souvenons-nous que l'homme de Lantian, qu'on a découvert dans la banlieue de Xi'an, c'est pas très très loin de l'espace mongol. Chokotien, c'est pas très très loin de l'espace mongol. Et on a des traces de présence d'hommes préhistoriques anciens aussi sur le territoire de la Mongolie. On est resté longtemps calé sur un petit 300 000 ans et on est en train de réévaluer la chose. Alors une deuxième présence qui, elle, est non pas arrivée du sud vers le nord comme les traces les plus anciennes, mais déjà de l'ouest vers l'est, est constituée par un peuplement néandertalien. Et il est très intéressant de constater que, je dirais, ce peuplement néandertalien, on en avait la preuve par les traces d'industrie lithique, qui est bien étudiée. La Mongolie a fait l'objet depuis très longtemps d'une bonne couverture, d'abord soviétique, puis soviétique et mongole, et désormais internationale, sans oublier les expéditions qui, je dirais, ont tourné à la périphérie du monde mongol. Et il y a évidemment des gens comme Teilhard de Chardin qui sont aussitôt convoqués, si j'ose dire, puisque Teilhard de Chardin, Lichan, sont des gens qui ont travaillé sur le périmètre, hein, qui englobe une partie de la zone moderne de peuplement mongol. Eh bien, ce peuplement néandertalien va pouvoir commencer à être étudié d'une façon plus complexe et plus complète, puisque l'an dernier et cette année, on a enfin fait des découvertes de restes humains, hein, d'identification néandertalienne sur le territoire de la Mongolie. On aura donc très probablement dans les années qui viennent des études de paléontologie humaine d'une part, et je dirais des études paléolithiques qui vont considérablement s'enrichir. On était assez riche en matériaux, hein, on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus complexe. Le peuplement Sapiens Sapiens arrive sur le territoire dans la période, je dirais, une fenêtre de datation tout à fait banale, entre moins 30 000 et moins 20 000, ce qui n'a rien ni d'extraordinaire, ni de là non plus de très exotique. Là encore, les restes humains sont peu nombreux, pour des raisons qui ont tenu largement à la, je dirais, au remodelage des surfaces, hein, telles qu'elles ont été reprises par, encore une fois, ce climat assez destructeur, avec ses effets, je dirais, de rabotage, les effets de l'érosion éolienne, qui est tout à fait considérable. Je vous rappelle que si vous avez en Chine du Nord des plateaux de loess, c'est que la terre a été prise quelque part, et que cette terre, elle vient du nord-nord-ouest de l'Eurasie, et en particulier du passage de ces grands vents sur le territoire de la Mongolie. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on retrouve des sites très riches en industrie lithique, hein, très souvent en territoire ouvert. L'utilisation de l'abri sous roche et de la grotte sont restées, je dirais, relativement marginaux. On en trouve surtout dans la partie occidentale de la Mongolie, mais les choses se sont, je dirais, rendent cette étude relativement complexe. Si on en arrive au néolithique, là ça devient très intéressant. On a à l'heure actuelle une trentaine de sites néolithiques sur le territoire de la Mongolie. La première datation qui a été menée d'ailleurs par une expédition française, il existe une mission franco-mongole archéologique dont le volet néolithique a été rendu des rapports, dont le volet paléolithique n'a jamais vraiment vu le jour, et qui travaille principalement aujourd'hui sur la période Xiongnu, hein, c'est-à-dire les quelques siècles avant notre ère et les quelques siècles de notre ère, les quelques premiers siècles de notre ère, en particulier sur le site de Golmot. Donc la première datation menée par Michel Seferiades nous situe aux alentours de moins 4700, plus ou moins 50, bien entendu, dans l'extrême est de la Mongolie actuelle. Et de façon tout à fait intéressante, et ça c'est une clé de lecture majeure, le néolithique mongol est un néolithique, passez-moi l'expression, comme les autres. C'est-à-dire, c'est la domestication, et la domestication dans l'ensemble de son spectre, très probablement d'abord domestication végétale et suivie d'une domestication animale, dont il ne semble pas d'ailleurs qu'elle se soit massivement produite sur le territoire de la région, mais qu'on ait déjà affaire à des pénétrations d'animaux déjà domestiqués, mais quoi qu'il en soit appropriés par des populations qui sont des populations sédentaires, d'agriculteurs, éleveurs, pêcheurs. et ces populations qui sont bel et bien les ancêtres des populations mongoles modernes de la région ne sont donc pas des populations nomades depuis l'origine des temps. Et ça, c'est une remarque plus générale que je me permets de faire en tant que travaillant, je dirais, surtout sur cette question, en particulier par un institut des études nomades que l'UNESCO a créé à Oulan-Bator. Aucune population n'est nomade depuis l'origine des temps. Et c'est là, je dirais, le tournant clé. Ce qui va nous amener aux Mongols et à la Mongolie, c'est cette constatation que les ancêtres les plus directs, qui sont les leurs sur leur territoire, sont des gens qui sont des agriculteurs, des éleveurs, mais des agriculteurs éleveurs sédentaires. Alors là, je vous renvoie à ce qu'on vous a appris quand vous étiez, même à l'école primaire. Puis on vous l'a répété quand vous étiez en sixième, et puis on a dû vous le répéter depuis. Au paléolithique, les hommes étaient nomades. Au néolithique, les hommes sont devenus sédentaires. Alors c'est un très bel exemple d'image vraie-fausse. Au néolithique, les hommes deviennent sédentaires, c'est vrai. Mais au paléolithique, ils n'étaient pas nomades. Ils étaient mobiles. Ils étaient une espèce en train de coloniser un ensemble de niches écologiques, d'espaces, de ressources. Mais ce n'est pas ça le nomadisme. On va essayer de clarifier un tout petit peu la question. Le pastoralisme nomade, c'est ce qui se produit. Je vous ai parlé de l'histoire climatique depuis 8000 ans. On venait de sortir en agriculteurs et éleveurs sédentaires, pas encore, en train de le devenir, de la période glaciaire. On était encore des chasseurs, des cueilleurs, des... Bon, il n'y avait pas toujours grand-chose à cueillir, bon. Mais vers entre moins 10 000 et moins 8 000, c'est à ce moment-là que l'isthme de Bering devient le détroit de Bering, que beaucoup d'espaces, la mer d'Okhotsk par exemple, densément peuplée, ce que montre aujourd'hui l'archéologie sous-marine russe et japonaise, etc., s'aperçoit, je dirais, d'une modification des possibilités de ressources, hein, montée des températures, passage par des optima de température et d'humidité qui vont très clairement favoriser la sédentarisation, la croissance démographique, la diversification des activités et, je dirais, rendre nécessaire le passage à un mode fondamental qui va être, je dirais, qu'on appelle le néolithique, mais qui est fondamentalement le vrai moteur qui se met en route, c'est-à-dire passer, la formule n'est pas de moi, hein, de la collecte des aliments à la production de nourriture. Il y a là-dedans toute une série de paramètres, toute une série d'accompagnements, la céramique, c'est-à-dire la maîtrise du feu, qui sera plus tard la maîtrise du métal. Aussi, je dirais, lié à la nécessité de conserver non pas la nourriture mais de conserver les semences, c'est-à-dire d'être capable d'entretenir un cycle qui va être celui de la production de nourriture. Et il va y avoir une mise à distance d'une part croissante du travail humain qui consistait dans l'immédiat à aller chercher l'aliment. On va mettre à distance cette quête de l'aliment en mettant en place toutes les structures et que la sédentarisation va évidemment renforcer par la quantité de travail qui va s'injecter dans la construction des habitations, etc. Tout cela va nourrir un processus fondamental qui est le processus d'accumulation. Et encore une fois, ce qu'on appelle accumulation, le mot peut être un peu trompeur, ça n'est pas la thésaurisation, ça n'est pas fondamentalement le fait d'accumuler, de mettre en tas des richesses, de mettre en tas de la nourriture. C'est précisément ce moment où l'homme développe une capacité de projet et une capacité de stratégie de stériliser, entre guillemets, c'est-à-dire d'épargner sous la forme des moyens de la durée, ce qui va lui permettre de faire face aux éventuelles irrégularités, d'abord les irrégularités du cycle annuel, hein, les drames historiques qu'on a connus encore très longtemps après ça, vous savez, l'histoire de la soudure, l'histoire des récoltes qui ne vont pas jusqu'à la récolte suivante, et puis les fois où on est obligé de manger la semence, etc. Tout ça, ça fait partie de l'histoire des sociétés sédentaires. Eh bien, il y a des régions, je dirais, où le processus ne peut pas ou ne peut plus être entretenu. Quand à partir de cette phase, je dirais, optimale, du moins 8000, on voit un processus très fort de succès, donc de croissance démographique, d'implantation de plus grand nombre de foyers de peuplement, le développement des technologies, la diversification et y compris la spécialisation dans ces sociétés, l'évolution qui est marquée de façon assez forte dans la région qui nous intéresse et qui devient extrêmement sensible après le cinquième millénaire, fait que cette révolution néolithique qui vient de se produire et qui donne les résultats qu'on en attendait, si j'ose dire, si on les attendait, va se heurter à une menace majeure, qui est l'impossibilité de rester sur la même longueur d'onde, de continuer par les mêmes moyens, avec la même espérance de résultat. La croissance démographique ne peut plus être gérée par une tendance à la croissance des ressources qui n'a comme corollaire que l'accentuation des processus d'accumulation, c'est-à-dire d'augmentation de la part de travail qui se trouve distraite de l'acquisition immédiate de ressources, entre autres alimentaires, au profit, je dirais, du fonctionnement général de ce système. Et il reste à ce moment-là trois options. Les trois ont été expérimentées, si j'ose dire. La première, c'est de mourir sur place. Et on a des exemples de populations et de cultures qui s'éteignent, quelquefois même presque de façon suicidaire, je dirais. Une deuxième voie, c'est la migration. C'est essayer de trouver ailleurs, pour l'essentiel, des conditions qui permettent de reproduire le modèle. Trouver des espaces de ressources dans lesquels cette interpénétration de la mise à distance, de la mise en épargne et de l'acquisition de ressources va à nouveau être possible, va à nouveau être jouable. Donc, on reprend les grands mouvements de colonisation qui avaient été ceux du paléolithique et même du pré-paléolithique sur un mode qui est désormais beaucoup plus structuré, beaucoup plus sophistiqué, mais dont il faut dire aussi, parce que souvent on l'oublie, qui est un mode coûteux. Une migration, passez-moi l'expression, ce n'est pas une rigolade. Et une migration, ça consomme en tant que telle énormément d'énergie. Or, si on est déjà dans un bilan énergétique qui est fragile, déséquilibré, en danger, la migration n'est pas nécessairement et partout la voie du sauvetage. Et il reste une troisième voie, qui est de renoncer à l'accumulation, de trouver un moyen sur des zones de ressources affaiblies et plus irrégulières, de trouver des réponses qui permettent le maintien d'un peuplement humain dans la région. Et si vous me permettez, c'est le diagnostic fondamental que je me permets de faire sur ce qu'est le pastoralisme nomade et ce qu'ont été les voies historiques de sa formation. C'est un mode historique nouveau qui s'appuie sur les déséquilibres et l'insuffisance des modes de vie sédentaires qui s'étaient installés dans les régions concernées et qui va, je dirais, chercher à tourner la difficulté. Alors, on la tourne de plusieurs manières. Il y a un premier facteur fondamental qui est le contrôle démographique. Tous les éléments qui sont en notre possession aujourd'hui, par l'étude archéologique, par les datations, etc., nous montrent que on a des infléchissements tout à fait spectaculaires et que, je dirais, du modèle classique, ordinaire, passez-moi l'expression, là aussi, hein, qui veut qu'une progression démographique ait tendance à être exponentielle. Quand on dit démographie, je dirais presque immédiatement, on dit croissance démographique. Et il semble, et il nous semble, que la vitalité démographique, c'est la croissance démographique. Eh bien là, nous nous trouvons en face d'un modèle qui va développer un mode d'approche. Alors, ne me demandez pas à quel niveau de conscience, parce que là, nous n'en sommes pas encore là dans notre étude, mais je dirais il y a une telle cohérence sur des espaces importants qu'il est très douteux que le phénomène ait été parfaitement, non maîtrisé. Ce que nous pouvons voir, par contre, c'est qu'à l'époque historique bien documentée, cette stratégie est appliquée par l'homme au peuplement animal. Ce que je veux dire, c'est qu'on a non plus une croissance démographique, mais un modèle de stabilité et de permanence démographique. On pourrait dire, dans une optique sédentaire, de stagnation démographique. Donc une volonté de non-progression, de maintien en plateau de la pression démographique sur les ressources. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième élément, ça va être le passage au pastoralisme. Vous allez me dire, quelle est la différence entre l'élevage et le pastoralisme? Il y a deux aspects. Premièrement, c'est dans la part relative de l'animal dans l'obtention des ressources par rapport aux autres sources de cette obtention. Donc, l'abandon progressif de la dimension proprement agricole au bénéfice d'une part croissante de l'animal dans l'obtention des ressources, et en particulier des ressources alimentaires, c'est une première chose. Et puis, il y a une deuxième chose qui est peut-être encore plus intéressante et qui, je dirais, nous place déjà dans l'image d'une complexité mentale, intellectuelle, tout à fait conceptuelle, tout à fait remarquable. C'est l'identification de l'animal, non seulement comme source immédiate d'alimentation et de toutes sortes d'autres produits, vous pouvez vous en douter, mais l'identification de l'animal comme une parade, un amortisseur aux irrégularités qui rendent, encore une fois, le maintien de la présence humaine plus difficile que ne l'était la période néolithique triomphante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un organisme humain et que vous lui faites perdre par déshydratation et d'autres procédés, je dirais, sous alimentation, l'équivalent environ de 17-18% de sa masse corporelle, les fonctions vitales sont atteintes. Autrement dit, l'organisme humain meurt. Chez le mouton, cette déperdition peut être de 35%. En d'autres termes, l'homme va pouvoir utiliser des espèces animales pour lui-même se sauvegarder au prix d'un amaigrissement, excusez-moi de la vulgarité du terme, d'un amaigrissement des animaux de son troupeau. Et il y a ça, toute une série de facteurs qui vont se greffer, qui vont être le développement de la multiplicité des espèces élevées. Le passage à un pluri-élevage, là où la connaissance que nous avons de l'élevage néolithique nous montre, on fait les poubelles, une population, je dirais, consommatrice d'espèces, là encore, elles aussi, comme les hommes eux-mêmes, relativement spécialisées. On voit cette spécialisation se fondre et se développer, un élevage que nous retrouvons encore aujourd'hui, c'est-à-dire ce que les Mongols appellent les cinq museaux. Les ovins, les caprins, les bovins, les chevaux et, de façon très précoce, mais à ce moment-là encore marginale, jusqu'au XIIIe siècle, les chameaux. Chacun de ces animaux présente des appétits particuliers, des modes de vie particuliers, des modes de consommation particuliers. Le cheval cueille, la vache broute, le mouton broute encore plus serré, encore plus ras, et la chèvre arrache. Donc chacun de ces animaux va, quant au chameau, il peut aller brouter les choses qu'aucun des autres n'est capable de manger. Donc tout ça va nourrir, favoriser un pastoralisme qui est de l'ordre de la non-spécialisation spécialisante en quelque sorte. Ça va être des choses qu'on va retrouver dans tous les foyers. Et enfin, le grand moteur va être quand tout cet appareil, je dirais, qui se prépare, et qui se prépare sur un mode, tenez-vous bien, encore sédentaire, dont nous avons les traces. Les habitations, les grandes cabanes, dont certaines, je dirais, dépassent la centaine de mètres carrés, et pour lesquelles on voit simplement se développer des facteurs de déplacement saisonnier, de mise à l'écart d'une partie du troupeau sur des bases saisonnières. Tout cela va basculer, mais très tardivement, au plus tard dans le courant, et même, je dirais, à la fin du deuxième millénaire avant notre ère, et de façon enfin massive dans le courant du premier millénaire avant notre ère, lorsque, alors, on va devenir mobile. C'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'on va se disperser. Donc on va abandonner les modes de groupement et les modes de résidence en grandes maisons, en villages, au profit d'un mode qui devient le mode dominant et qu'il devient de façon progressive, contradictoire, complexe, mais qui est là, je dirais, une tendance qui va s'affirmer au fur et à mesure qu'on va avancer, alors surtout à partir des premiers siècles de notre ère, jusqu'à l'époque mongole proprement dite, où la généralisation de ce modèle, qui est enfin, on peut dire, le pastoralisme nomade, au sens complet et propre du terme, sur cette région de l'Eurasie, ça va être la dispersion de petits groupes de population. Et quand je dis petits groupes de population, c'est fondamentalement des familles nucléaires. C'est les parents et les enfants. Avec, de temps en temps, quand ils vivent assez vieux, le ou les aïeux encore vivants au moment où les enfants devenant adultes ne sont pas encore partis du campement parental. Cette dispersion de minuscules campements familiaux s'appuie sur la mise en utilisation des ressources destinées aux troupeaux, donc des ressources pastorales, des pâturages, qui, là encore, va présenter un aspect extrêmement intéressant, et je dirais, dont les témoignages historiques et, pour une petite part, archéologiques, parce que ça en a laissé relativement peu, mais il y en a quand même, je dirais, recoupent extrêmement bien les recherches anthropologiques, les témoignages, je dirais, remontant au XVIIe, XVIIIe siècle, et jusqu'aux observations ethnographiques et aux recherches ethnologiques que nous pouvons mener encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, nous sommes, même si je vous parle de choses qui, pour certaines d'entre elles, remontent aux origines même du pastoralisme nomade, le degré de continuité avec la modernité du pastoralisme nomade est quelque chose de tout à fait remarquable. Cette idée, par exemple, de la non-croissance. Alors, en même temps, on a des stratégies pour faire croître le troupeau. Mais c'est parce qu'on sait d'abord qu'on va en perdre beaucoup en route. Donc on essaie que les bêtes aient des petits, pour qu'il y ait beaucoup de lait, parce que le lait va être la base de l'alimentation humaine. Et il y a toute une série comme ça d'enchaînements qui vont se retrouver. Mais comment s'appelle, en bon français, la génération des petits nés dans l'année? Est-ce que ça vous dit quelque chose? On est dans les mots intraduisibles. Alors que le mot traduisible en français, il est parfait, ça s'appelle le croît. Donc un nom fabriqué sur la même racine que le verbe croître. Le verbe croître est une dérivation sur le nom le croît. Et le croît, ça veut dire, et ça ne veut dire, c'est pas la croissance, c'est les petites bêtes de l'année. En mongol, ça se dit tol. Vous allez dire, bon, et alors? Eh bien, tol, c'est la forme nominale sur laquelle existe aussi un verbe qu'aujourd'hui on emploie comme verbe tout à fait ordinaire, tod, au sens de payer. Ah. Mais si on gratte un peu, on s'aperçoit que la polysémie de ce verbe et je dirais la notion qu'ont les Mongols de ce que veut dire payer, acheter, vendre, etc. C'est non pas l'idée marchande, mais tout simplement l'idée de la substitution, l'idée du dédommagement. Donc le mot qui désigne les petites bêtes de l'année ne désigne en réalité non pas une image ou une mythologie de la croissance du troupeau, mais une conception extrêmement explicite et claire de son renouvellement. Sans accroissement, parce que l'accroissement, ça veut dire quoi ? Ben, l'accroissement, ça veut dire une pression accrue sur les ressources, leur destruction et la mort. Donc tout le système va s'organiser et s'organise et existe encore aujourd'hui sur une base parfaitement perceptible. Là encore, ce qui avait été, souvenez-vous, dans l'accumulation de la mise à l'abri, de la mise en épargne du parti du travail humain dans les équipements de la durée, eh bien, dans le pastoralisme nomade, c'est pour ça qu'on n'est pas très loin les uns des autres. Et j'ai tendance, moi, à dire maintenant, les nomades, oui, c'est des sédentaires comme les autres. Alors, premièrement, ils font ça pour ne pas être obligés de migrer. Donc, qu'est-ce que c'est que ne pas migrer, sinon rester sur un territoire ? Donc être sédentaire d'une certaine façon, et ne pas être sédentaire de cette façon, c'est en maîtrisant un espace de ressources, de façon donc, pour toute la population dispersée, en petits groupes, chacun de ces petits groupes maîtrisant de façon alternative et saisonnière des espaces de pâturage qui permettent d'alimenter, de nourrir le troupeau dont on va à son tour soi-même tirer le bénéfice. Le système est d'une très grande simplicité. Il faut bénéficier d'un lieu où on peut passer l'hiver. Parce que comme on a dit tout à l'heure, l'hiver, bon, moins 40 ne fait peur à personne, mais enfin, quand même. Ce qui fait peur surtout, c'est qu'en plein moins 40, tout d'un coup, un jour, il peut faire plus 3, plus 4, plus 5. Et sur l'ensemble des stations météo mongoles, un des paramètres extrêmement importants, c'est que partout où vous avez des mois de janvier à moins 30, vous avez des maxima en janvier qui sont des températures positives. Alors on se dit, bon, bah c'est très bien, il faisait meilleur ce jour-là. Oui, mais ce jour-là, le peu de couverture neigeuse que normalement l'animal peut brosser de ses pattes et aller chercher sa nourriture va se s'humidifier. Et évidemment, la température retombant va se transformer en une croûte de glace qu'aucun animal, aussi fort soit-il, ne va pouvoir fracasser. Et là, l'animal meurt à quelques centimètres de son herbe gelée, appauvrie, tout ce que vous voulez, mais qui est quand même la seule façon qu'il ait d'attendre le printemps suivant. Donc il faut un endroit abrité, un endroit aussi suffisamment abrité pour que précisément la neige de l'automne ne soit pas sublimée par son exposition au soleil. Donc des endroits où il doit y avoir aussi de l'ombre. Alors si en plus il peut y avoir quelques sources qui ne gèlent pas, là c'est fabuleux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les espaces de pâturage qui sont à proximité de ces lieux, et ces lieux, bien sûr, vous pouvez imaginer, je vous ai parlé des montagnes tout à l'heure, ces lieux, ils sont à la périphérie des massifs montagneux. Ce sont des niches topographiques, des cœurs de vallée, des choses comme ça, qui vont fournir des hivernages. Et ces hivernages vont être identifiés, reconnus, plus ou moins clairement approprié, c'est là, je vous disais, l'archéologie qui nous montre ces éléments, c'est les traces, quelques traces d'installations relativement durables. Alors c'est devenu beaucoup plus systématique dans la période moderne, mais on a y compris des marquages, des bornages d'espaces hivernaux qui disent c'est notre famille qui vient passer l'hiver ici, puisque sinon le droit du premier occupant, c'est le conflit permanent de celui qui arrive avant les autres à la fin de l'automne, et de celui qui dit, tu es peut-être arrivé avant moi cette année, mais moi, c'est mes arrière-grands-parents qui occupaient cette vallée, d'où des situations dont on va voir tout de suite à quel point elles sont proches de l'histoire. Cet espace de pâturage à proximité de ce lieu nécessaire à l'hivernage, eh bien, c'est là que va s'exercer le mouvement, la stratégie de mise en épargne. Autrement dit, contrairement à une image très banale, très passe-partout, les nomades sont des gens mobiles et des gens qui suivent leur troupeau ou qui emmènent leur troupeau là où ils savent qu'il y a de l'herbe et de l'eau. Eh bien non. Les nomades sont des gens qui n'emmènent pas leur bétail là où ils savent qu'ils devront utiliser le pâturage à un autre moment de l'année. C'est une stratégie de maîtrise des ressources. C'est une stratégie de mise en réserve. Et de mise en réserve sur, je dirais, la conception d'un mode complexe d'appropriation des ressources. Juste une image. Si on se dit, ah ben avec ça, alors on va savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils sont l'hiver en altitude, l'été en vallée, etc. La réponse est, je n'en sais rien. Ou plus exactement, il faut étudier cette réalité à chaque endroit, quelquefois à quelques kilomètres de distance. Parce que ce qui importe, c'est la reconstitution du rapport aux ressources. Et que pour cela, on est tout à fait capable de modifier les tactiques, de d'abord, évidemment, faire varier considérablement les distances. Donc quand on va parler de mobilité, on va s'apercevoir que la mobilité est un sous-produit. C'est un instrument. Ça n'est à aucun moment le pilote du dispositif. On adapte la mobilité à toujours la même chose. L'obtention par le troupeau du montant, du volume de ressources et de sécurité qui lui est nécessaire pour fournir à l'homme, au petit foyer humain, les éléments alimentaires et autres dont il peut avoir besoin. Donc cette variabilité considérable, au point que beaucoup des chercheurs qui ont étudié le pastoralisme nomade, je dirais, ont eu un peu tendance à se perdre dans cette diversité et à affirmer le fait qu'il n'y a rien, circuler, si j'ose dire, il n'y a rien à voir, puisque c'est tellement différent d'un endroit à un autre, et ils ont simplement oublié de se poser la question de, mais qu'est-ce qu'il y a de commun dans le fait que ça soit si différent d'un endroit à un autre ? Donc, non seulement on ne suit pas les bêtes, on les conduit, mais on les conduit là où on ne veut pas qu'elles aillent, hein, en dehors de là où on ne veut pas qu'elles aillent, pour que là où on en aura besoin, en particulier pour l'hiver, et évidemment, la superficie des pâturages d'hiver est de très loin la plus considérable. Donc celle qui, je dirais, pour être protégée, demande le plus de travail. Pour une raison bête, c'est qu'au printemps, en été et encore en automne, l'herbe, tant qu'elle n'a pas fleuri, elle repousse. Donc l'animal va brouter, il va pouvoir brouter deux fois, quelquefois trois fois, le même pâturage. Les rendements baissent, mais ça permet, là encore, je dirais, de limiter, de piloter l'alternance sur les pâturages. Le pâturage d'hiver, lui, il n'y a rien à faire. L'herbe, une fois broutée, quel que soit l'état dans lequel on la trouve, elle ne repousse pas, elle ne repoussera qu'au printemps suivant. Donc il faut réserver pour un troupeau de taille donnée davantage de place pour l'hiver, en plus l'herbe perd de sa valeur, que pour la période surtout principalement estivale pendant laquelle l'animal va faire du muscle en été et de la graisse en automne. Donc tout cela, je dirais, va nourrir un modèle et une culture. Bien entendu, d'abord une culture matérielle. Hein, la non-accumulation, là au sens très ordinaire du terme, c'est évidemment, passez-moi l'expression, d'apprendre par la force des choses à voyager léger. Donc si vous espérez trouver un piano à queue dans une yourte mongole, vous pouvez toujours chercher, peut-être d'ailleurs vous en trouverez parce que tout est possible dans ce beau pays, mais on ne peut pas dire que ça ait fait partie, je dirais, de l'équipement de base. Il y a eu une période pendant laquelle il y a eu des transports automobiles qui favorisaient la nomadisation. La crise qui a accompagné l'effondrement du système socialiste, je dirais, a ramené beaucoup de gens à une vision plus écologique des choses. Mais dans la plus longue durée, je dirais, cet élément n'est qu'un à côté d'un phénomène très important de la culture matérielle des éleveurs nomades. La très grande dispersion signifie ipso facto l'inexistence, ça ne veut pas dire l'impossibilité, mais l'inexistence, catégorie positive, d'une division sociale du travail. Dans une société d'éleveurs nomades, tout le monde est éleveur nomade. Et même quand historiquement on va voir émerger des chefs, des empereurs, etc., ces empereurs seront des éleveurs nomades qui, au moins pendant toute une partie de leur jeunesse, auront élevé des chevaux, trait des juments, conduit des vaches sur les pâturages et des moutons, tondu des moutons. Il n'y a pas de division ni en caste, ni on peut le dire dans une très large mesure en classe, et en tout cas pas en catégorie socio-professionnelle. Ça veut dire par exemple qu'il n'existe pas de catégorie de marchands. L'échange est très important. C'est un échange de maintien de la pérennité. C'est en particulier des prêts mutuels de bétail dont on peut se dire, mais à quoi ça sert de se prêter 5 bêtes adultes contre 5 bêtes adultes? Eh bien, c'est une affirmation de solidarité qui fait que le jour où l'un des deux éleveurs est quelquefois à très peu de distance de l'autre en situation de déshérence, il va pouvoir compter sur la récupération de sa part de bétail. Donc, et c'est de l'échange. Et de cet échange vont naître des formes assez sophistiquées qui ne seront détruites, en définitive, que par la confrontation à l'expansion commerciale chinoise à l'époque de la dynastie Mandchou, c'est-à-dire en fait 18e et fondamentalement 19e siècle, et principalement encore deuxième moitié du 19e siècle. Donc vous voyez des phénomènes tout à fait modernes. Cette non-spécialisation touche aussi l'artisanat. Il n'existe pas, historiquement, fondamentalement, dans la longue durée, de couches d'artisans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les savoir-faire, au lieu d'être concentrés entre les mains d'une couche, et très largement, disons, d'être confisqués au reste de la société, sont, chez les éleveurs nomades, l'objet d'une très large diffusion. Alors c'est vrai pour beaucoup de techniques à un niveau, je dirais, qui peut paraître relativement simple, mais ça n'empêche absolument pas qu'émergent dans ce paysage des personnages qui sont très vite reconnus, qui restent des éleveurs nomades. Ça ne devient pas, en tout cas avant la généralisation de monastères lamaïques sédentaires dans les toutes dernières années du XVIIIe siècle, et où là, les monastères s'entourent d'un certain nombre de véritables artisans. Et souvent, c'est d'ailleurs des lamas, des moines, qui deviennent, sur la base des technologies traditionnelles, des spécialistes. Mais ça ne porte pas atteinte à l'existence, encore une fois, dans les profondeurs et dans l'étendue de la société pastorale nomade, d'extraordinaires artistes, d'extraordinaires spécialistes de toutes sortes de disciplines, depuis le travail du cuir jusqu'au travail du métal, hein, puisque nous sommes jamais très loin de l'altaï, donc des choses, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup pour trouver des ressources métalliques, et cette tradition a traversé les siècles et présente, alors il y a des domaines que vous connaissez d'ailleurs au moins de vue, tout ce qu'on appelle, vous savez, les casse-têtes chinois. Ces machins d'emboîtement, etc. Il faut dire que les soirées d'hiver sont longues sous les yourtes. Eh bien, c'est fondamentalement un art mongol. Et les Mongols arrivent à des trucs, il y a dans les musées d'Oulan-Bator, des choses absolument monstrueuses, constituées de centaines et de centaines de pièces. Vous savez, ces machins qui représentent des découpes qu'il faut... on avait eu une démonstration un jour extraordinaire, un des spécialistes de ce domaine aujourd'hui, parce que bien sûr aujourd'hui ça produit des experts, qui s'était amusé, sachant qu'il allait venir à Paris, à nous fabriquer une tour Eiffel de plus d'un mètre de haut, qui comportait je ne sais plus combien, mais c'était de l'ordre de pas loin d'un millier de pièces, et qu'il nous a démonté et remonté en quelques minutes, de façon assez extraordinaire. Puis alors, il l'a redémonté, il a dit, ben maintenant, allez-y. Bon. Moi, je peux vous dire, j'en ai une petite collection à la maison, il y en a un que je n'arrive pas à remonter, et que l'imbécile mongol qui me l'avait démonté, tout fier de lui, a été évidemment lui-même incapable de remonter, et qui attend, comme ça, depuis des années, qu'un jour, une bonne fée vienne me dire, tiens, ton truc, ah, plof, 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 et me l'aura rendu. Donc, il y a ça, il y a les fameux cadenas. La technologie chinoise des cadenas. Hein, alors, une clé en mongol, ça se dit tulkhur, qui est une forme du verbe tulkhir, qui ne veut pas dire tourner, mais qui veut dire pousser. Puisque, comme vous le savez, les cadenas chinois sont des systèmes de lames écartées que la clé vient resserrer pour que les deux parties du cadenas puissent dissocier et donc le cadenas s'ouvrir. Eh bien, vous avez en Mongolie, alors ça existe en Chine aussi, mais en Mongolie, fabriqué par des spécialistes mongols qui n'étaient pas des serruriers professionnels, qui vont jusqu'à la nécessité que soient réunies 16 clés, enfin c'est le plus bel exemple que j'ai trouvé, pour que le cadenas puisse être ouvert. Ça veut dire que dans une famille, tous les membres doivent pouvoir détenir une des clés du cadenas, et il faut que toute la famille soit réunie pour que le cadenas soit ouvert. Je vous dis pas ce qu'il devait y avoir dans le coffre, hein, mais bon. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de thésaurisation, voir. Donc tous ces éléments, je dirais, sont extrêmement intéressants, la part évidemment de la culture musicale, et en particulier de la culture vocale. Le célèbre technique du chant diphonique. Qui est tout un truc très simple à faire, hein, puisqu'on produit un son avec les cordes vocales, une vibration des cordes vocales, et on joue comme d'un sifflet sur les harmoniques au moment où elles traversent le reste de la cavité buccale. Ce que je fais, moi, c'est juste montrer que l'effet est faisable. Hein. Après, vous savez, quand les Mongols vont venir vous chanter à la belle... allons voir si... etc. Enfin, des chansons françaises du XVIe siècle... En chomi, hein, c'est toujours un petit peu amusant à entendre. Bon, donc toute une série de choses comme ça, très vite, mais là on est déjà dans l'histoire aussi, une culture linguistique, cette dispersion met la communication, je dirais, au rang d'un art absolument majeur. L'orateur, celui qui sait parler, celui qui sait s'adresser aux autres, qui sait condenser sa pensée, donc qui véhicule aussi des héritages, par exemple des héritages de proverbes par dizaines de milliers. Tout cela fait des richesses absolument extraordinaires. Par exemple, pour dire qu'un élève doit forcément dépasser le maître un jour, on dit « la corne pousse plus tard que l'oreille, mais elle est plus longue ». Donc le maître, c'est l'oreille, et puis la corne qui apparaît toute petite, et puis dépasser l'oreille, voilà. Donc évidemment, une place aussi toujours de l'animal, une place, une interrogation sur l'animalité et l'humanité qui nourrit une littérature orale absolument extraordinaire, dont certains morceaux sont arrivés jusqu'à nous. Tout le monde ne sait pas forcément que l'argument du Lac des Cygnes, le ballet de Tchaïkovski, c'est une légende bourriate. Et avec cette histoire du cygne qui devient un être humain, etc. Ça arrive aussi à des ours, ça arrive à des loups, il y a des bons, etc., etc. Donc une culture extrêmement riche, extrêmement étendue. Et aussi, il faut le savoir, aussi bien au plan de la technique qu'au plan de cette culture, je dirais, spirituelle et immatérielle, extrêmement ouverte aux autres. L'image du nomade enfermé dans son fond de steppe est une image particulièrement fausse. Les nomades ont été des véhicules extrêmement importants des cultures mondiales. Et pour ne donner qu'un exemple, si le bouddhisme a connu en Chine du Nord l'importance qu'il a connue, les grandes façades sculptées de la dynastie des Wei du Nord, ben on le doit au fait que la dynastie des Wei du Nord, c'était des gens qu'on appelait les Tabgach, qui étaient ou les Toba en transcription chinoise, qui étaient des cousins proches de ceux qui allaient être, hein, au 4e, 6e siècle, de ceux qui allaient être, quelques siècles plus tard, nos Mongols. Or, il y a dans tout ça, je dirais, un ensemble que je voudrais essayer de clarifier en quelques minutes, puis ça nous laissera, j'espère, pas mal de temps pour discuter. Si nous pensons à cette dispersion en petits groupes, avec de petits troupeaux qui doivent juste à peu près fournir aux irrégularités près ce que la consommation humaine doit pouvoir en attendre pour maintenir une population qui ne soit pas obligée d'aller chercher ailleurs son secours. Ça veut dire une chose très simple. Cette population est fragile. Chacun de ces groupes est à la merci de retournements du sort, je dirais, pour des facteurs qui peuvent nous sembler tout à fait subalternes, tout à fait secondaires. Je vous dirais, entre deux familles voisines qui, pour une raison ou pour une autre, un terrain de chasse, un espace de pâturage salé dont les animaux ont besoin pour consolider leur croissance, vont se trouver en situation de tension, en délicatesse l'un envers l'autre. Il suffit que l'une des deux familles ait quatre fils, là où l'autre n'en a que deux, qu'une des deux familles ait quatre fils un peu plus musclés, de quelques années plus âgés que les enfants de la famille d'à côté, pour que le rapport des forces se trouve déséquilibré. Ça veut dire que, bien sûr, on cherche à négocier les modes de vie, les ententes, les coopérations. Par exemple, la tonte des moutons, il faut que ça se fasse vite si on ne veut pas que les animaux restent sans laine sur le dos alors qu'il peut encore faire froid ou qu'il va faire déjà froid. Donc il faut des effets d'échelle, comme on dirait aujourd'hui, pour que cette tâche soit remplie. Et on arrive, en voisin, à se donner des coups de main comme cela. Mais ça ne marche pas toujours. Il arrive forcément un moment où cette belle harmonie idyllique, cette dispersion qui est l'optimum, qui est la condition du maintien dans les lieux, je dirais, ça achoppe. On entre dans une situation de tension. Et là, je dirais, il n'y a pas d'autre solution que de pouvoir compter sur des réseaux d'alliances, sur des ententes. Certaines, bien entendu, ont pour base les relations consanguines. Les relations entre parents et enfants, au sein des fratries. Mais vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas de raison que les nomades, de ce point de vue, soient forcément différents des autres homo sapiens. C'est aussi dans ces mêmes réseaux de consanguinité que se mettent en place les plus belles vendettas. Donc il n'y a pas que les réseaux consanguins qui fonctionnent. Et je dirais même nous devons être très attentifs au fait que dans le fonctionnement réel de cette société, ce qui est le consanguin est très important et parfaitement reconnu pour éviter les malheurs de la consanguinité, les erreurs de la consanguinité, mais qu'il n'y a aucune obstination, si j'ose dire, à maintenir la consanguinité comme fondement du mode de vie, des modes de groupement, des modes de cohabitation. Je dirais au contraire. Les stratégies matrimoniales, par exemple, se construisent très à distance. Ce qui, au passage, témoigne d'une connaissance globale de ces petits noyaux de population, isolés sur leur petit espace de pâturage. J'estime qu'une famille normalement constituée, avec 3 ou 4 enfants, qui a pu en avoir davantage, mais je dirais, il en reste ça au moment où ils arrivent à l'âge adulte, ça va être environ 500 hectares. Alors la notion d'hectare n'a pas une grande signification en pareil cas, mais vous voyez, c'est des espaces qui sont très variables, mais qui peuvent être, y compris, je dirais, relativement modestes. Mais tout cela, je dirais, va favoriser des phénomènes, des époques de fermentation, de maturation, de tension, etc., dans lesquelles ces relations d'alliance, qui sont des relations de garantie mutuelle, vont devoir devenir des rapports de force. Et là, je résume de façon outrageuse, c'est là qu'on entre dans l'histoire, si j'ose dire. Puisque ces groupements, ces rassemblements, ces fédérations vont se reconnaître, vont s'identifier, vont se nommer. Vont se nommer en particulier avec l'identification du rôle que quelques groupes, puis bientôt un seul groupe, va pouvoir jouer comme, au départ, modérateur. Et puis, je dirais, d'un petit groupe appuyé par un modérateur, qui normalement doit pouvoir retourner, si tout se passe bien, à la dispersion pastorale normale. Parce que si on se rassemble pour se défendre, c'est bien, mais on est obligé aussi de rassembler les troupeaux, et les troupeaux rassemblés détruisent le pâturage. Et si on essaie de se déplacer en grand groupe, on constitue une cible idéale pour des prédateurs de diverses natures, que ce soit les loups qui vont venir dévorer des troupeaux qu'on n'aura pas la possibilité de réellement protéger, ou que ce soit évidemment des ennemis qui trouveront là une occasion rêvée de eux-mêmes se renforcer. Donc tout cela, je dirais, rend le passage par les formes défensives et concentrées extrêmement problématique, par définition brève, mais également moments fondamentaux de maturation politique, d'émergence de groupes dominants, de lignages dominants, d'une aristocratie nomade en quelque sorte, qui va revendiquer et mettre en œuvre. Alors, une première stratégie qui est ce que je vous disais, rassembler pour permettre de résoudre les conflits et de retourner à la dispersion. Une image est à l'appui de ça. Les conflits nomades ne sont pas des conflits d'extermination de l'adversaire. Ce sont des conflits de négociation d'un nouveau modus vivendi. Ce qui, encore une fois, n'empêche pas, comme je le disais tout à l'heure, les vendettas. Mais là, ça se passe, je dirais, entre soi. Là, on se trucide avec une certaine allégresse. Un jour, ça finit avec 70 marmites dans lesquelles il y a 70 bons hommes. Le problème, c'est que suivant les sources, on ne sait pas si c'était les bons ou les mauvais qui étaient dans les marmites. Bon. Suivant les points de vue adoptés, bon, allez savoir. Donc, dans un cas, c'est les tenants du lignage du futur Genghis Khan qui envoient 70 djurkites dans les 70 marmites, et dans d'autres sources, c'est les djurkites qui envoient 70 cousins éloignés de Temujin dans les marmites. Donc, malheureusement, on n'a pas retrouvé les marmites, donc on n'a pas pu faire les expertises d'ADN qui nous auraient enfin sorti de cette douloureuse incertitude. Mais je dirais que les conflits, là, existent. Et à ce niveau, c'est toujours, dans ces cas-là, des histoires de famille. Donc, comme dit la chanson, ça ne regarde pas le populo. L'exemple le plus caractéristique est le sort d'un groupe qui a pourtant fait fortune dans la terminologie et l'ethnonymie eurasiatique, c'est les Tatars. Les Tatars qui sont un groupe très proche cousin des Mongols, mais au XIIe siècle impliqué dans un rôle de tampon entre l'Empire des Tsines, hein, l'Empire Jurchen de Chine du Nord, et les peuples de la steppe, et qui se livrent après un certain nombre d'escarmouches dans lesquelles ils sont dans leur rôle de gardien des frontières chinoises, en quelque sorte, se livrent à un certain nombre d'écarts, dont l'un consiste à empoisonner le père de Temujin. Là, évidemment, on n'est plus dans le règlement normal d'un conflit de nomade à nomade. On est dans un casus belli, direct, simple, et donc quand Temujin, devenant Genghis Khan, met la main sur les Tatars, il a une solution extrêmement simple. Vous distribuez les enfants dans les familles, et tous ceux dont la taille dépasse l'essieu des charrettes, vous coupez à la hauteur de l'essieu des charrettes. Ce qui fait que quand le monde va entendre parler des invasions tatars, dont nous, en Europe, nous allons faire les invasions tartares, c'est au nom d'une population qui n'existe plus depuis plusieurs années. Plusieurs décennies même à ce moment-là. Mais je dirais, c'est une image, mais une image qui nous fausse notre optique. Puisque le mode normal, c'est des groupements s'opèrent, on trouve les solutions et tout le monde repart sur ses pâturages jusqu'à la marée montante suivante. Et puis de temps en temps, il y a un coup qui marche tellement bien que ça serait quand même dommage d'en rester là. Et un lignage, et c'est de façon très intéressante, grosso modo tous les 200 ans. Je mets de côté les Xiongnu parce que nous avons de plus en plus de raisons de penser que, contrairement à une image fréquente, les Xiongnu n'étaient pas encore, à proprement parler, des nomades, mais sont une image de cette transition au pastoralisme nomade qui est, je crois, la chose qui est la plus intéressante. Il suffit de regarder la nécropole de Golmot que nous sommes en train d'étudier avec nos collègues mongols, 480 sépultures, dont certaines demandant jusqu'à 60 000 mètres cubes de déblais et de remblais, donc des calculs en temps de travail, en homme-journée, si j'ose dire, absolument considérables, pratiquement incompatibles avec un mode de vie pastoral nomade normal. Donc qu'il y ait déjà eu des éleveurs nomades à cette époque est très probable, mais l'interrogation qu'il fallait avoir, et quand je parle de 400 et quelques, on sait qu'il y en a au moins le double sous des épanchements de sable qui ont recouvert l'ensemble du site. Une question qu'il fallait se poser, et que nous avons posée, c'est « mais n'existerait-il pas à des distances compatibles avec la quantité de travail nécessaire pour réaliser, encore une fois, une telle nécropole dont la durée de vie, passez-moi l'expression, a été de environ 150 ans au grand maximum, n'y aurait-il pas des sites montrant la présence d'un peuplement sédentaire ? Bien, il a suffi de se poser la question, commencer à chercher de façon concentrique pour évidemment découvrir au moins un de ces sites pour l'instant, et très probablement on en découvrira d'autres, sous forme de forteresses murées d'époque sur nous, avec les traces d'une différenciation professionnelle, là, avec des potiers, avec des choses comme ça. Donc, je dirais, mais si on oublie, si on met de côté, je dirais, ou qu'on les retient comme point de départ, en quelque sorte, et qu'on examine la suite de l'histoire, c'est-à-dire toute l'histoire de notre premier millénaire et des siècles qui l'ont suivi, on s'aperçoit là que, grosso modo, tous les 200 ans, on a une de ces convergences de rapports de force qui donne naissance à ce qu'on a pris l'habitude de nommer un empire. Et je ne vous ferai pas, vous, pour beaucoup d'entre vous, bibliothécaires, l'injure de supposer que vous ne connaîtriez pas l'Empire des Steppes de René Grousset. Le moment n'est pas venu de discuter de René Grousset. L'information de base est totalement satisfaisante. Elle est encore, pour bien des points, je dirais, en train seulement d'être rattrapée par les études ADN et les progrès de l'étude archéologique. Mais, je dirais, en matière d'études de sources, on n'a pas, il faut le dire, découvert énormément de documents révolutionnaires, fondamentalement nouveaux, sur ces périodes. Je dirais, il faut apprendre à mieux lire les histoires dynastiques chinoises, ça c'est autre chose. Mais, je dirais, René Grousset travaille sur un matériau qui est grosso modo le même que celui auquel nous avons accès aujourd'hui. J'exagère, je caricature. Par contre, René Grousset et un certain nombre d'auteurs qui l'ont suivi, je dirais, n'ont pas pu ou n'ont pas su se poser les questions que déjà l'histoire, quand même c'est un contemporain de Marc Bloch, se posait à l'égard de toute une série de phénomènes, de la féodalité, etc., etc. Donc on a un petit peu eu des plaquages de terminologie, des plaquages, c'est le cas de Vladimir Tsov pour une certaine part également, encore que Vladimir Tsov, n'étant pas historien, faisait un travail de philologue dans une très large mesure pour s'interroger sur les terminologies qu'il trouvait dans la longue durée des espaces nomades et mongols en particulier, et tentait de faire des mises en regard et pas du tout de proclamer des assimilations. Donc, je dirais, de ce point de vue, on a un travail tout à fait remarquable, encore une fois, qui souligne cette continuité des empires, entre guillemets, alors employons le terme, en sachant qu'il faut le prendre avec des guillemets, qu'il faut, je dirais, concevoir ce qu'il a de relatif, de particulier, et, je dirais, de décentré, de décalé, je dirais presque par moment de déjanté, dans la mesure où, quel est son moteur à cet empire nomade ? Eh bien, il n'est pas de régner sur la société pastorale nomade, au sens où un empire règne sur la société qui le nourrit. Et c'est là qu'est le décalage le plus intéressant. La société nomade, qui gère ses irrégularités par la dispersion, est tout à fait de taille à légitimer la naissance d'une entreprise qui est fondamentalement une entreprise de gestion, de régulation de la dispersion. Elle n'est absolument pas en mesure de nourrir ce que devient un empire qui vise la pérennité, c'est-à-dire une armée permanente, une administration, un service fiscal, des systèmes de communication, etc., etc. Ça, la société pastorale ne peut pas l'assurer, en tout cas sûrement pas de façon durable. Or, ces empires se maintiennent pendant un siècle et demi, quelquefois même avec certains effets de traîne un peu plus. Il leur faut donc des ressources autres que ces ressources faibles et irrégulières que le pastoralisme nomade peut leur apporter. Eh bien, ce qu'on ne trouve pas dans la zone du pastoralisme nomade, on va la chercher à l'extérieur. Donc c'est une longue logique de relation d'échange avec le monde sédentaire, à bénéfice mutuel. Les fourrures qu'on va chercher à l'extrémité du monde nomade, des produits tels que le ginseng, qui poussent aussi sur les espaces du pastoralisme nomade et qu'on sait très bien repérer, les chevaux qu'on va fournir à la Chine ou pour lesquels on va servir d'intermédiaire à la Chine, par exemple pour les chevaux de la région de la Fergana. Tout cela va nourrir des relations. Et puis, là encore, ces relations peuvent s'avérer et s'avèrent très facilement insuffisantes, contradictoires, etc. D'où la véritable rupture que constitue à ce moment-là le passage à l'acte très particulier qui est celui de la conquête. Et alors, historiquement extrêmement marqué, de la conquête de la Chine du Nord, de la constitution en Chine du Nord, d'un cycle d'empire, de dynastie qui sont aujourd'hui complètement, je dirais, assimilés par l'héritage historique chinois, mais qui n'en sont pas moins des empires, des pouvoirs qui sont issus du monde de la steppe et dont la raison d'être est de fournir la base de ressources nécessaires à un empire nomade pour rester au pouvoir. Donc que vous pensiez au Peiwei dont nous parlions tout à l'heure, que vous pensiez de façon plus complexe à la dynastie des Sui, ou pour une part de son histoire, même à la grande dynastie chinoise des Tang. On oublie souvent que pendant la deuxième moitié de son histoire, la dynastie des Tang est fortement dominée, modelée par la pression qu'exerce depuis Chang'an même la très grande présence des Toutuais, des Turcs. Et si nous continuons pour nous rapprocher des Mongols, qu'est-ce que c'est que la dynastie des Liao? La dynastie des Liao, c'est-à-dire les Khitan, ces gens que Marco Polo appelle le Katai pour désigner toute la Chine du Nord, mais que la Russie continue à appeler aujourd'hui Kitai, le nom russe de la Chine. C'est des Mongols. C'est des cousins extrêmement proches des Mongols. À un détail près même, c'est qu'ils ont réussi le même tour de force consistant à utiliser plusieurs écritures simultanément. Et qu'on a toujours de grosses difficultés pour essayer de bien interpréter. Là aussi, c'est un élément de tradition culturelle qu'on va retrouver. Et puis derrière ça, après les Khitan, vous avez les Jurchen. Alors eux qui sont plutôt des proto-Mandchous, mais qui sont, je dirais, tout à fait dans la même filiation. Et les Mongols, au premier degré, vont arriver dans l'histoire, je dirais, au terme d'un processus d'unification qui est largement le mieux documenté, mais quelque chose dont on retrouve les images et les traces dans des phases précédentes, et qu'on va retrouver, je dirais, émergeant dans la même démarche, la même préoccupation d'un lignage qui cherche à se pérenniser et qui, au premier degré, va faire la même chose que les prédécesseurs, par conflit avec l'Empire des Tien interposé, donc démarrage en 1211 de la conquête, à quoi s'ajoute toute une série de conflits périphériques qui sont bêtement, si j'ose dire, des suites des mécanismes de l'unification. Qui là encore nous renseigne sur le degré très important et très intéressant des relations, des connaissances mutuelles, des interpénétrations. Quand en 1208, Chinggis Khan envoie des armées envahir la région de Kashgar, c'est parce que le fils Kuchluk, le fils du dernier souverain des Naïman, qu'il vient de battre au cours d'une bataille absolument mémorable et magnifique, s'est réfugié chez son beau-père, Hidikut de Kashgar, et s'empresse premièrement de le renverser, et lui, Kuchluk bouddhiste, d'instaurer dans ce pays déjà islamisé une dictature bouddhiste que Chinggis Khan va prendre comme prétexte pour venir pourchasser et se présenter, lui qui va profaner les mosquées de Samarcande quelques années plus tard, en sauveur de l'islam. Autrement dit, une connaissance politique, une connaissance religieuse, un sens tactique, une capacité, je dirais, à faire feu de tout bois qu'on va retrouver dans un art militaire que je résume en une formule. Les Mongols ne se battaient pas. Les Mongols faisaient la guerre. Et ils la faisaient parce que dans tout ce paysage que va ouvrir la grande période des conquêtes, ils font tout ça en restant d'un bout à l'autre en situation de très profonde infériorité numérique. Les armées mongoles de l'Empire, c'est au maximum 130 000 hommes. Là où l'armée des Song, c'est plus d'un million. Comment on s'y prend ? Eh bien, on fait conquérir la Chine par des armées chinoises. On essaie de débaucher des contingents coréens pour contrôler la Corée. Et on va procéder de la même façon. Puis quand ça va se structurer, on va mettre des garnisons chinoises en Iran et des garnisons iraniennes en Chine. Le jour où on n'aura plus le moyen de les payer, au XIVe siècle, ça va devenir un peu problématique. Mais n'empêche que, je dirais, c'est tout ce phénomène et qui se déroule dans une logique qui est très clairement la réactivation de ce qui n'avait plus fonctionné depuis pas mal de temps, qui est le grand courant de circulation, d'échange, de biens, de techniques, de formes artistiques qu'on appelle les routes de la soie et que les Mongols vont restaurer, alors pour très peu de temps, puisque grosso modo, entre la conquête de l'Iran en 1257 et l'éclatement des conflits entre les mêmes Khan mongols d'Iran et les Khan mongols de la Horde d'Or en particulier, hein, qui sont eux aussi islamisés, mais qui sont sunnites, alors que ceux d'Iran sont déjà chiites, tout ça va rendre les choses évidemment extrêmement inconfortables et les voies de passage continentales vont se fermer. Et on a l'image facile, mais malgré tout extrêmement éclairante, de Marco Polo allant de Venise à Pékin à pied, et enfin à pied, à cheval, et étant obligé d'en revenir en bateau, parce que la voie de terre en 1290 n'est déjà plus praticable. Donc il y a quelques dizaines d'années où, je dirais, cette réouverture d'importance planétaire, puisque je vous rappelle que des gens comme Christophe Colomb n'ont jamais cherché autre chose qu'à trouver par d'autres voies le chemin vers les richesses des Indes, c'est-à-dire de l'extrême Asie. Hein. Sur la Santa Maria, il y avait, si j'ose dire, la Bulac en avant-projet, une Bible et le devisement du monde de Marco Polo. Et on le sait par la correspondance de Christophe Colomb lui-même qui a tout à fait, je dirais, revendiqué cette perspective. Donc, cette histoire impériale va être évidemment un rebond considérable, puisque c'est là que se forge, que se fonde l'identité mongole moderne. Mais cette identité mongole moderne, en termes, je dirais, en termes d'image, en termes de nom, etc., elle est parfaitement inséparable de ce sur quoi j'ai préféré insister davantage, parce que, je dirais, généralement beaucoup plus méconnu. Donc derrière, on a les étapes historiques, hein, les grandes conquêtes, l'histoire des dominations mongoles dans les pays conquis, hein, en Chine, en Asie centrale des oasis, en Iran, en Russie. Tout ça est extrêmement intéressant, extrêmement important. On a l'histoire mongole après, alors, l'effondrement qui est loin d'être aussi simple et aussi uniforme que ce qu'on voudrait imaginer, c'est-à-dire que l'Empire mongol ne disparaît pas dans l'effondrement de ses dominations extérieures et dans une Mongolie qui est, par ailleurs, très appauvrie par la période des conquêtes. C'est les extensions de l'Empire, je dirais, ont consommé le bénéfice des conquêtes, et la Mongolie est très vraisemblablement dans un état beaucoup plus délabré à la fin de la période impériale qu'au début. La destruction de Karakorum en 1390 par une expédition chinoise qui va être suivie de l'impossibilité, très probablement de l'absence de volonté même, de reconstruire cette capitale impériale, est une image. Mais l'image elle-même subsiste. Quand, en 1586, alors que s'est mis en place une suite à l'Empire mongol, qui a été la poursuite d'un jeu politique mongol sur l'ensemble de la Haute-Asie, une présence des Mongols toujours très forte dans la hantise qu'a l'Empire des Ming de cette menace constante, et qui est une menace bien réelle. Le dernier siège de Pékin par les Mongols, c'est 1555, 5 ans après la prise de Kazan par Ivan le Terrible. C'est pour faire pression, ça n'est pas pour reprendre Pékin et pour détruire Pékin. N'empêche, les Mongols restent des acteurs extrêmement présents de la vie, je dirais, médiévale et des débuts de l'époque moderne au sens propre. C'est tellement vrai qu'au XVIe siècle, ils vont être en quelque sorte des arbitres d'une reconfiguration, d'une recomposition d'espaces qui sont très au-delà des espaces du pastoralisme nomade. Et s'il en faut un terme symbolique, c'est tout simplement le titre du Dalai Lama, qui est évidemment un dignitaire tibétain, mais ce dignitaire tibétain porte un titre mongol qui lui a été décerné par un arrière-arrière-petit-fils de Kubilai, Altan Khan, prince des Toumètes, qui échange contre un titre ronflant qui lui est décerné par le pontife tibétain, un autre titre non moins ronflant que le chef de l'église des Gelugpa va désormais considérer comme, je dirais, le plus emblématique de sa volonté d'exercer une domination, et je dois vous dire à l'époque, pas seulement spirituelle, sur l'ensemble centre et haut asiatique. Donc derrière ça, ça nous amène aux confins de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire le fait pour les Mongols au XVIIe siècle de tomber sous la domination de l'Empire mandchou. Quand je dis domination, le mot est faible, puisqu'un fragment important du peuplement mongol, les gens qu'on appelle les Dzungar ou Dzungar, c'est-à-dire un empire occidental dont le territoire est aujourd'hui le Xinjiang, principalement, fondamentalement, se pose en rival, et y compris vis-à-vis de la domination du Tibet, en rival de l'Empire mandchou, et paye cette rivalité de son existence. C'est probablement un des premiers génocides du monde moderne. L'Empire des Qing élimine physiquement l'essentiel de la population Dzungar, réussit à faire revenir en 1770 une partie non négligeable des Kalmouks de la Volga en Asie centrale, et là, non pas les massacres, mais les disperses de façon délibérée et considérable, où tout cela aboutit pour 3 siècles à la subordination d'un bouclier, comme le terme même de l'empereur Kangxi le signale, c'est-à-dire le mot mongol Khalkh, qui est aujourd'hui le nom ethnique que se donne le noyau de la population de la Mongolie proprement dite. Ce terme de khalkh, qui veut dire le couvercle ou le bouclier, fait l'objet d'un jeu de mots. Il y a eu beaucoup de jeux de mots de souverains à l'égard des Mongols. C'est Saint-Louis disant quant aux Tartares, il faut les renvoyer dans le Tartare dont ils n'auraient jamais dû sortir. Alors on prête corrige, c'est probablement pas Saint-Louis lui-même qui a dit ça. Mais... Et Kangxi qui dit quant aux Mongols khalkh, ils seront le bouclier au nord de mon empire, c'est-à-dire ils sont insérés dans un dispositif qui est déjà la préoccupation de l'Empire mandchou vis-à-vis de ce qui est, au début du XVIIe siècle, déjà perceptible, à savoir la pénétration coloniale de la Russie jusqu'en Sibérie orientale et jusqu'au bassin de la mer. Donc, derrière ça, une histoire contemporaine, si ça vous intéresse, on pourra en dire un mot tout à l'heure, mais je crois que j'ai déjà très largement assez parlé. On avait jusqu'à quelle heure? C'est pas mal calculé, hein. Ça évite les questions gênantes. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir été, comme d'habitude, un peu trop bavard.
commencé 10 minutes en retard, qu'on nous a changé de lieu de manière impromptue, on va dire qu'on a quand même droit à 10 minutes de plus pour les questions, parce que sinon c'est vraiment pas juste. Donc, y a-t-il des questions dans la salle ? En plus, on va chercher à nous refaire sortir. Oui, Ginette. Parle fort. Hein.
C'est évidemment une excellente question. De toutes les études, alors modernes, je dirais sur quelques dizaines d'années, on constate, alors je vais faire une très vilaine plaisanterie, c'est une question qu'évidemment les étudiants en début d'année me posent souvent, sous une forme un peu imagée, mais quand il fait moins 40 dehors, quelle température fait-il dans la yourte le matin ? Je leur dis, moins 10, mais c'est pas grave, c'est les femmes qui se lèvent pour allumer le feu. Non, c'est pas plus violent que ça la réaction. Bon, vous êtes gentil. Alors vous êtes vraiment gentil. Quand d'abord c'est partout pareil, mais il fait pas forcément moins 10 partout. Non, évidemment, ce qu'on observe en temps de travail social, c'est que la femme travaille environ 3/4 d'heure de plus que l'homme par jour. C'est une première chose. En termes de spécialisation. Alors, ça ne veut pas dire que la vie de l'homme soit forcément toujours plus riante, parce que dans sa journée de travail, il y a aller chercher les bêtes perdues, etc., et on peut se perdre soi-même et y laisser la peau, etc., ce qui fait qu'il y a, je dirais, historiquement, beaucoup de familles monoparentales. Donc, y compris dans la spécialisation, il y a aussi cet aspect de nombreuses femmes qui sont obligées d'élever seules leurs enfants. Et il y a, y compris, c'est absolument remarquable parce que le mythe fondateur du lignage de Chinggis Khan repose sur un épisode de cette nature. C'est-à-dire d'une mère seule. Alors là, ça devient une origine céleste, comme vous pouvez vous en douter, mais n'empêche que c'est au cœur de l'image et au cœur de la perception. Derrière cela, il y a bien entendu un certain nombre, je dirais, de spécialisations. Je viens de dire, l'homme part sur les pâturages pour aller chercher les animaux ou conduire les animaux. La femme remplit une fonction immédiate qui, est, en règle générale, reste proche du campement. Ce qui lui donne, je dirais, un certain nombre de contraintes, mais aussi un certain nombre de droits. Et il y a là, je dirais, alors, si on prend l'ensemble de l'échelle juridique, culturelle et sociale, une image fondamentale qui est la très haute valorisation de la femme dans la conduite pastorale nomade. La femme, je dirais, encore une fois, travaille plus dur, mais en tire un statut qui est reconnu comme un statut d'égalité. À ça, une image qui est présente dans les traces les plus anciennes que nous ayons de formalisation juridique. Le divorce existe et la reprise par l'épouse de sa part, de la part qu'elle a apportée dans le ménage, si j'ose dire, est posée et affirmée. Les tâches quotidiennes sont en règle générale accomplies en simultanéité et non spécialisation. Alors, il y a des parts de spécialisation, c'est-à-dire que c'est plutôt la femme qui fabrique les vêtements et l'homme qui fabrique les bottes. Il y a des choses de ce genre. C'est les vieillards et les enfants qui ramassent le crottin qui va être le combustible. Ça n'est ni les femmes ni les hommes, en règle générale. C'est évidemment la femme, et en particulier la grand-mère, quand elle est encore vivante, qui joue un rôle fondamental en matière d'éducation des enfants. Donc on a toute une série, je dirais, on pourrait développer, je n'ai pas, en ce qui me concerne, consacré d'études spécialisées sur ce sujet. Il y en a. Hein. Il faut tout de suite ajouter à cela un élément qui n'est pas neutre, c'est le moment de le dire. La langue mongole ne présente pas de différenciation de genre. Il n'y a ni masculin ni féminin. ça devrait nous faire réfléchir. Parce que quand une table rencontre un fauteuil, est-ce que les petits, c'est des chaises, ou est-ce que les petits, c'est des tabourets? Voilà une question importante. Si on confond le genre grammatical et le sexe, vous pouvez vous douter que les éleveurs que sont les Mongols, hommes comme femmes, ont une idée relativement précise de ce qu'est la différenciation sexuée. De ce que sont les différents comportements, les différents éléments culturels qui les séparent, les rassemblent, et ça conduit, y compris par exemple, à une histoire politique dans laquelle les femmes, et je dirais à chaque, on peut dire qu'à chaque tournant historique majeur, est associé non pas à un personnage féminin, mais un acteur féminin. Il y a pendant l'unification mongole, je dirais, un couple extraordinaire qui est le couple des deux frères jurés, Temujin et Jamukha. Et un beau matin, ben après-midi, Jamukha dit à Temujin, il chevauche de concert, vous voyez, au pied d'une falaise, et Jamukha dit à Temujin, mettre notre campement au pied de la falaise, ça serait bon pour nos éleveurs de chevaux. Minute de silence. Et Jamukha reprend la parole. Mettre notre campement au bord de la rivière, ça serait bon pour nos éleveurs de moutons. Et Temujin se gratte la tête, n'ose pas demander d'explication, et rentre à la maison un peu préoccupé. Il n'a rien compris, etc. Et il pose la question à sa mère et à sa femme. Et sa femme répond, j'enjolive un peu les dialogues, « Mon pauvre Temujin, t'es vraiment trop con. » Ça, c'est dire en mongol, ça sonne tout à fait différemment, mais ce qu'a voulu dire Tonanda Jamukha, c'est qu'il commence à en avoir assez de nomadiser avec nous. Et suit derrière ça, non pas le coup de génie stratégique de Temujin, mais son épouse lui dit « Il faut que nous le quittions au plus tôt. » Et le soir même, Temujin et ses proches quittent le campement en commun, disparaissent dans la nuit, et c'est un des plus magnifiques passages du texte qui est connu sous le titre d'Histoire secrète des Mongols, où on traverse la nuit, on traverse des campements. Oelun, la mère de Temujin, adopte un petit enfant perdu qui va devenir d'ailleurs un sacré emmerdeur, mais peu importe. Et la scène se termine de façon absolument fabuleuse, phénoménale. Je dirais, on a fait plein de films sur Gengis Khan. On vient encore d'en faire un film monstrueux qui s'appelle Mongol. Surtout n'allez pas voir ça, sauf si vous avez vraiment envie de rigoler. Et où le jour est en train de se lever, vous avez les brumes sur la steppe, et de loin en loin, on tourne ses regards et on voit ceux qui émergent de l'obscurité et qui ont choisi de venir avec Temujin. Et donc c'est le moment clé. De la même façon que la mère sans mari tout à l'heure, qui tout d'un coup se retrouvait enceinte d'un nouveau venu, Bodanchar, l'ancêtre direct de Temujin, là de la même façon, c'est pratiquement, je dirais, un ordre donné par son épouse à Temujin qui fabrique, qui crée, qui ouvre la phase décisive de l'unification mongole et de l'accession de Temujin à l'Empire. Donc on pourrait multiplier encore les exemples jusqu'à un exemple tout à fait formidable qui est la restauration à la fin du XVe siècle de l'unité de l'Empire mongol par Mandukhaïr Hatun, donc une princesse qui a été une épouse secondaire d'un souverain plus ou moins Chinggis Khanide, et puis ça part en eau de boudin à ce moment-là, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un gamin, elle a pas loin de 30 ans, elle prend un gamin de 8 ans, de bon pédigré Chinggis Khanide, elle l'épouse solennellement, et elle le monte sur le trône. Et elle conduit les opérations de guerre qui lui permettent de réussir l'opération. Ce personnage, Bat Monk, est connu sous le dernier titre d'empereur de tous les Mongols, qui est le titre de Dayan Khan, et qui a été, je dirais, l'auteur, parce qu'avec elle et avec d'autres épouses, il a eu de très nombreux enfants, entre lesquels il a réparti son, l'espace qu'il contrôlait. Et il a fait don de son vivant au cadet, qui s'appelait Gersans, d'un énorme losange de pâturage et de population qui était le nord de son empire, qui n'était pas au contact direct de la Grande Muraille et des échanges qu'on pouvait nourrir avec la Chine. Donc c'était un peu le fond, un peu arriéré, reculé, mais c'était aussi le foyer historique, là où s'était faite l'unification mongole, là où, comme toujours, le dernier né se devait de reprendre la yourte de son père. Et ce grand losange, eh bien, c'est le territoire de notre actuelle Mongolie. Donc vous voyez, on peut dire que la Mongolie a été créée par des femmes.
Une ultime question qui appelle 30 secondes de réponse.
Il y a comme un reproche dans les 30 secondes.
Non, c'est parce que je sens qu'on nous met la pression des deux côtés à la fois. Donc...
Nous saurons nous défendre.
Oui. On inscrira une seconde conférence complémentaire sur la Mongolie pour...
Où là, je ne vous parlerai que du maréchal Choi Balsan.
Voilà. Non, encore une question? Oui.
Oui. Ben, aujourd'hui, il y a la Mongolie, la République de Mongolie, vous avez la région autonome de Mongolie intérieure, et encore en Chine, vous avez dans plusieurs provinces des districts nationaux autonomes mongols, et vous avez en Russie la République autonome Bouriate, qui fait partie de la Fédération de Russie, et la République autonome Kalmouk, qui elle aussi fait partie de la... Donc il y a des entités administratives territoriales. La République Bouriate, jusqu'en 1935, s'est appelée la République autonome Bouriate-Mongole. Et puis on a enlevé Mongole parce qu'on trouvait que ça faisait trop penser à l'État qui était de l'autre côté de la frontière et...
Je crois qu'on va vous remercier énormément pour ce voyage transdisciplinaire quand même qui fait honneur à l'université.
On essaye.
Ah, oui. Grand merci. Et donc, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout à fait au début que la dernière séance aura lieu le 8 décembre. Alors, en principe, dans la salle du conseil, sauf nouvelles mésaventures, sur les littératures de l'Afrique francophone. Merci beaucoup.
Par Madame Ursula Baumgart.
Oui, Madame Baumgart.
Merci à tous.
Merci beaucoup. C'est des super. Maintenant, je sais dans
vous. Pour me lancer dans des sujets comme ça, c'est trop dangereux.
Est-ce qu'on a enregistré? Oui, absolument. Vous êtes déjà dans les collections de la Bulac, ça y est.
C'est facile. D'ailleurs, quand vous proverrez, vous pouvez vous
présenter. Oui, dès qu'on la reçoit, il nous la donne un jour.
Comme la conférence, le colloque de...
Oui, parce qu'on les a pas eu encore. Non, mais on va les avoir aussi, c'est pas rien.
Y compris l'association des anciens élèves vient nous voir. Oh, on voudrait le texte de votre conférence pour mettre dans notre bulletin de vie, parce que vous croyez
qu'il y a un texte.
Vous rigolez.
Mais si, en revanche, s'ils veulent bien donner la peine de transcrire et de vous
c'est
faire.
Ce que c'est ce qui leur prend au nez.
Nous prendrons volontiers le texte final.
Merci, monsieur Michel.
Merci.
Même sans image.
Oui, ben ça, c'est.
Non,
on aurait dû laisser le fond d'écran de Microsoft parce que c'est presque réaliste.
Vous avez le temps de manger avec nous ou vous repartez dans vos foyers?
Ah, bien sûr, oui, c'est une bonne idée.